Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le langage est une chose pratique. Paul Valéry l'analyse dans l'un de ses cours au Collège de France, en 1938. Le langage a des propriétés pratiques, explique-t-il. Lorsque vous avez dit quelque chose à quelqu'un, dans la vie, quand vous avez demandé un verre d'eau, eh bien, une fois la chose faite, dite, et la chose faite, le but atteint, toute la forme du langage, la séparation des mots, leur structure, leur harmonie, tout ce que vous voudrez, ont entièrement disparu pour être remplacés exactement par la signification. Le langage meurt, si vous voulez, dans l'effet obtenu, comme l'insecte qui meurt en se servant de son dard et qui le laisse dans la blessure. Le langage est donc action, voire engagement. C'est ce que nous explorons dans Fracas. Et dans cette mini-série, la journaliste Antonella Franchini se penche sur l'engagement des jeunes. Elle s'entretient avec trois personnes sur la manière dont elles utilisent leur voix dans leurs engagements respectifs. Cette mini-série vous est présentée en partenariat avec la plateforme France Volontaire, qui accompagne, dans des missions de volontariat international, d'échange et de solidarité, ceux et celles qui souhaitent s'engager. Bonne écoute.
Encore une fois, je suis pleine d'ambition, je suis pleine de conviction. Donc j'ai qu'une envie, c'est de le partager aux autres et de leur dire, mais soyez aussi volontaires, parce que si on met tous notre pierre à l'édifice, il y a un moment, c'est obligé que le monde y change. C'est évident, il faut que ça marche.
Salut Charlène, ça va ?
Oui, ça va bien et toi ?
Ça va, merci. Alors, est-ce que tu peux me décrire à quoi ressemble ta vie à Paris avant de partir faire ton volontariat ? T'as fait quelles études? Tu travailles dans quoi? Enfin, ton quotidien, il ressemble à quoi?
Alors, moi, j'habite à Paris. Je vis à Choisy-le-Roi, dans la banlieue parisienne. C'est pas fou, mais c'est pas si mal. Mon quotidien, il est assez routinier, en réalité. Je vais travailler, je fais plusieurs types de jobs. Donc, j'ai une formation plus en gestion de projet, avec une compétence alliée à la gestion de projets culturels, touristiques, environnementaux. Et j'ai eu beaucoup d'expérience à l'international. Et en fait, j'arrive à Paris après 6 mois au Sénégal, où je travaillais pour l'Institut de Recherche pour le Développement. J'ai habité au Maroc, j'ai habité au Sénégal, j'ai habité au Chili. Après toutes ces expériences-là, je reviens à Paris pour commencer ma vie. Et finalement, je suis rapidement désillusionnée. Je me retrouve dans un contexte qui n'est pas forcément le mien, dans une grande ville avec des gens qui sont toujours pressés, des agendas très chers. Donc rapidement, je me suis dit, bon, déjà au niveau du contenu professionnel, j'ai besoin de plus, mais au niveau de ma qualité de vie aussi, parce que j'ai pas envie d'être prise dans ce métro-boulot-dodo toute la vie. Je m'engage donc comme volontaire en service civique à l'association Études et Chantiers à Paris, où je me retrouve à faire des inventaires de biodiversité dans des espaces verts pour faire du plaidoyer en faveur de la gestion différenciée d'espaces. Donc c'est un peu technique, mais c'est pour prouver aux gens qu'il ne faut pas forcément toujours tondre l'herbe à ras pour que ce soit joli.
Donc cette question de la biodiversité, elle apparaît à ce moment-là et c'est quelque chose qui s'est poursuivi ensuite. Et je crois que c'est aussi une des raisons pour lesquelles tu as voulu partir, t'engager à l'étranger. Ça a un lien avec la question de la biodiversité. Est-ce que tu peux me raconter pourquoi tu décides de regarder vers l'extérieur ?
Parce que je pense qu'il y a un énorme puits de biodiversité en Amérique latine qui sert à la planète entière et qui est largement contenu dans le bassin amazonien. La majorité des insectes y vivent. Le poumon de la planète, c'est pas juste une jolie phrase, c'est réel. Aujourd'hui, si l'Amazonie elle disparaît, on pourra juste plus respirer. Voilà, donc je pense que c'est surtout cette passion-là qui m'a amenée à aller là-bas. En France, en Europe, j'aurais pu le faire, c'est sûr, mais oui, effectivement, il n'y a plus vraiment de forêt primaire. Il n'y en a plus qu'une, en réalité. Et en fait, elle est tellement loin, cette nature qu'on a détruite, que des fois, ça me paraît trop loin.
Comment tu fais pour partir ? Comment tu t'y prends ?
Comment je fais pour partir ? Et comment je fais pour partir bien ? ça a été ça le défi, parce que partir c'est facile. Tous les ans, des milliers de gens, je pense, qui prennent leur sac à dos pour partir et apporter leur pierre à l'édifice. Il faut que je parte longtemps. Il faut que je parte longtemps, parce que aller dans un autre pays, ça veut dire apprendre la langue, les coutumes, pour ensuite espérer avoir un impact quelconque. Donc je décide de me tourner vers des organismes d'envoi volontariat. Il y en a plusieurs, il y a France Volontaire, il y a le CD, il y en a plein d'autres. Moi j'en ai choisi une et j'ai passé toutes les étapes de recrutement. Donc il y en a beaucoup, il faut d'abord présenter un dossier, après il faut être reçu sur ce dossier qui est très très long en plus à remplir. 4 demandes, 4 lettres d'appui de recommandation, un entretien oral bien évidemment, plus tout un stage pendant une semaine où t'es encore évalué, et au terme de ça tu peux formuler tes souhaits. Et tes souhaits, tu vas les catégoriser si, en fonction du type de mission, mais aussi du lieu d'affectation, du type de rémunération. Globalement, ça me prend un an de partir vraiment, au moins 6 mois de bien remplir les documents et d'être acceptée à l'ensemble de ces étapes. J'essaye de rendre mon profil le plus attractif possible parce que c'est aussi un domaine qui est extrêmement compétitif et que quand je décide de partir, je décide de partir, mais pas dans n'importe quel profil, mais dans les profils, les contrats de volontaires en solidarité internationale, qui est un contrat extrêmement professionnel, qui requiert des compétences et aussi des savoir-être et des savoir-faire, bien évidemment, puisque c'est des contrats longs durée, donc il faut être capable de démontrer sa capacité à s'adapter. J'attendais un coup de fil depuis longtemps, donc de l'association d'envoi aux volontaires, et ils finissent par m'appeler, et ils me laissent un message sur mon répondeur en me disant « rappelle-moi rapidement, j'ai quelque chose pour toi, mais c'est peut-être pas très intéressant ». Et donc je les rappelle et je leur dis qu'est-ce que c'est. Ils me disent donc c'est une association qui nous a contactés, elle s'appelle Envol Vert. Ils font des choses extraordinaires, mais par contre il y a un tout petit problème avec eux, c'est qu'ils payent très très mal. Et je lui dis c'est combien mal? Donc c'est 150 € par mois. Moi tout ce que je veux, c'est vraiment avoir une mission qui ait du sens par rapport à mon profil, mais aussi par rapport à l'impact que je peux avoir. La mission, elle m'intéresse énormément, donc je découvre la fiche de poste, je la trouve fabuleuse, bien évidemment. C'est la mission de mes rêves, j'en ai toujours voulu, j'ai l'impression que j'étais prête pour ça depuis que j'étais gamine.
C'est comme ça sur toute la mission, ou comment ça se passe financièrement pour toi ?
Alors financièrement, au début, c'est pas très dur parce que je gagne pas beaucoup ma vie, mais j'ai bien mis de côté et je suis assez bonne en gestion financière. Donc j'ai pas vraiment de problème avec ça. Ça devient plus compliqué au bout d'un an et demi, où là, mes ressources, elles commencent un peu à s'amoindrir. Mais on arrive à un moment de mon histoire de volontariat où je rencontre des structures, finalement, qui font grossir l'ONG et qui nous permettent de débloquer des nouveaux financements. Et à partir de ce moment-là, je commence à gagner beaucoup mieux ma vie. Je gagne un peu plus tous les ans. Et au bout de bout, j'arrive à 900 € par mois, ce qui est largement suffisant pour subvenir à mes besoins au Pérou. Alors, en 2016, quand je pars, l'association, elle a 4 ans et demi, donc elle est toute récente. Alors, l'association Envol Vert, c'est une association qui s'occupe de la protection des forêts et de la biodiversité en Colombie, au Pérou et en France. On me dit, oui, on a un projet à Tarapoto, c'est de l'écotourisme, il faudrait aller voir parce qu'on ne sait pas trop comment ça se passe en ce moment là-bas. Et potentiellement, on a un site de projet au sud du Pérou, donc à 30 heures de chez toi, avec des producteurs de café, qui est super intéressant aussi. Et on me dit quand même en parallèle, il faudra aussi que tu fasses de la représentation de l'association localement, parce qu'on n'a jamais eu de responsable pays. Mis bout à bout, toutes ces choses-là, ça revient à un poste de chargé de pays. Je pense qu'entre le moment où ils m'ont appelé, le moment où je suis montée dans l'avion, il a dû se passer un mois. Déjà, l'arrivée au Pérou, elle a été longue, hein, parce qu'il y a beaucoup d'escales, d'heures d'avion, si t'as pas beaucoup d'argent. Donc, je suis fatiguée quand j'arrive, forcément, mais je suis surexcitée. Et j'arrive, il fait nuit à Tarapoto, donc je ne vois pas le paysage. Je monte dans un motocar, qui est plus ou moins l'équivalent d'un tuk-tuk. Et là, je me dis, waouh, ça y est. Et là, j'arrive dans une auberge de jeunesse que m'avait recommandée une des personnes qui travaillait pour mon association. Et j'arrive, la porte, elle est complètement ouverte. Je vois des gens comme ça qui se baladent partout. Bon, alors, je vous aime bien une auberge de jeunesse classique, mais il faut s'imaginer le décor péruvien avec tout qui est un peu bordélique, de la musique partout. Je tombe amoureuse complètement de cet endroit. Je me dis, cette maison, elle est incroyable, elle est magnifique, elle est ouverte, elle est disponible, il y a plein de gens. Et je me suis tellement amourachée de cette maison que quand l'auberge est partie, je l'ai louée et j'y ai habité pendant 5 ans.
Et la ville de Talapoto, c'est située où ? Ça ressemble à quoi comme ville ? Est-ce que tu peux nous décrire cet endroit ?
C'est une ville qui se situe à l'entrée de la forêt amazonienne. Juste, c'est situé sur les contreforts du bassin amazonien, très exactement. Donc les derniers remous de la cordillère des Andes. Donc il y a un petit peu de relief, basiquement. Et on est adossé du coup à cette petite montagne surplombée par la forêt. C'est une région qui est entourée de lacs et de cascades. C'est une ville moyenne puisqu'elle a quand même 100 000 habitants. Et c'est extrêmement isolé puisqu'on est à 30 heures de Lima, tout au nord, donc à côté de l'Équateur et de la Colombie.
Tu faisais quoi concrètement avec les agriculteurs ? À quoi ressemblaient tes missions ? Comment tu aidais ? Quel projet tu développais ? Enfin, vraiment, c'était quoi ton rôle dans ce monde agricole ?
Nous, comme je le disais, on travaille sur la culture du café et du cacao au Pérou, en tout cas. Et du coup, c'est des cultures qui sont rapidement mises en plein soleil parce qu'il faut qu'elles répondent à des standards, ne serait-ce qu'en termes de productivité et de rentabilité. Il faut produire un maximum de café, un maximum de cacao pour le vendre au plus bas prix à l'autre bout de la planète. Et nous, en fait, ce qu'on veut faire, c'est montrer aux gens que c'est possible aussi de produire un petit peu moins, mais en accord avec l'environnement. Donc clairement, nous, ce qu'on prône, c'est des systèmes agroforestiers, donc des systèmes de culture sous ombrage. Et dans ces systèmes agroforestiers, on va aller inclure de la diversification très haute, à hauteur de 10 à 15 espèces différentes, qui vont apporter d'autres types de services. De la médecine, de l'alimentation, l'ombrage, c'est un service aussi, du bois, bien évidemment. Et tout ça pour que le producteur puisse avoir un apport économique additionnel à sa culture de rente qui finalement ne lui est pas si rentable que ça.
Comment tu fais pour transformer ton engagement, les idées que tu as développées en France, ta philosophie ? Comment tu injectes ça dans tes actions, dans tes actes ?
La voix ? VUX, je pense que la voix y est pour beaucoup. Les convictions, on les transmet avant tout par notre énergie, je pense, qu'elles soient physiques ou orales. Alors au début, c'est très dur, ça se fait dans la douleur. Parce que c'est pas quand on maîtrise quelques mots qu'on arrive à se faire comprendre, c'est quand on sait ce que l'autre il va entendre dans ce que tu lui dis. Il faut que j'en passe par là et ça me coûte parce que je fais des erreurs au travail. Enfin, ça, c'est normal, j'en fais dans ma vie personnelle, mais j'en fais aussi au travail. Par contre, je suis complètement submergée par la langue, puisque je me rends compte de l'écart énorme que j'ai dans ce que je pense savoir de l'espagnol et ce que je maîtrise réellement. D'autant plus que l'espagnol de Pérou n'est pas le même. Donc, comme dans tous les pays, les langues s'adaptent. Des fois, je ne comprends pas les gens. Et donc, c'est plutôt à ce moment-là, je me dis, j'ai un petit coup de flip quand même. Je me dis, va quand même falloir que je travaille ça. Et je suis peut-être dans le meilleur endroit parce que du coup, je suis à l'auberge de jeunesse avec plein de gens autour de moi. Et ma mission, comme toutes les missions au début, elle n'est pas si dense que ça parce qu'il faut que je la construise. Donc, j'ai le temps de le faire.
Carlos Salazar, est-ce que tu peux me dire qui c'est ce monsieur ? Quel genre d'homme c'est ? Enfin, peut-être si tu veux simplement comment vous êtes rencontrés, le moment de votre rencontre.
Quand j'arrive à Lima, je me présente tout de suite au bureau de France Volontaire parce que c'est nos référents, c'est les personnes qui sont les plus à même de nous aider à comprendre quels sont le pays dans lequel on arrive. Ils sont un peu nos garants diplomatiques aussi, donc il faut faire un petit peu attention. Et puis, moi, j'arrive dans un contexte où le Pérou ne reconnaît pas du tout le volontariat, donc j'ai plutôt intérêt à faire attention et puis à me rapprocher d'eux aussi pour mes visas parce que j'ai pas de droit de résidence supérieur à 6 mois, même si j'ai signé pour 2 ans. Et du coup, je rencontre Carlos, un sourire énorme, des grands yeux comme ça et une compassion illimitée, je pense. Et je rencontre Carlos avec lequel, malgré son âge, je sais pas quel âge il a quand j'arrive honnêtement, il doit avoir 65 ans, un truc comme ça. Je vois un peu comme un père professionnel. France Volontaire réussit finalement à faire reconnaître le volontariat officiellement et à nous obtenir des droits migratoires.
Et je crois que grâce à Carlos... Tu as vécu un des grands moments de ton volontariat. C'est une scène que j'aimerais que tu me racontes. Comment on t'a proposé ça ? Qu'est-ce que c'était que cette conférence
C'est l'UNESCO, c'était un grand moment. En fait, moi, je viens juste d'arriver au Pérou. On me demande de venir intervenir à l'UNESCO sur la question du volontariat, justement. Et je me retrouve dans face à une scène et une salle pleine à craquer. Et du coup, je prépare un discours et je me souviens très bien de Gaïa Carlos qui me faisait réviser mon texte comme ça, en accentuant, en étant très pointu sur les mots, sur la syntaxe, sur vraiment, tu vois, les mots d'engagement, tout ça. Et du coup, ça m'a permis de vachement m'améliorer en espagnol, mine de rien. En l'espace de 2 jours, j'avais fait des progrès monumentaux. Et je sais plus, peut-être dernière ou un truc comme ça sur la scène, je sais plus exactement, mais j'étais quand même pas dans les premiers à passer, donc j'avais bien eu le stress de voir tous les autres passer devant moi. Et en plus, je me rendais compte à ce moment-là qu'il y avait aucun étranger. J'étais la seule française, je pense, de toute la scène. Tous les autres, c'était des volontaires péruviens et moi-même. Devant une scène ultra professionnelle à l'UNESCO où t'arrives, les bâtiments, ils sont ultra pompeux. Tout le monde est super bien sapé et toi, t'arrives, t'as pas un rond. T'es super mal habillée, tu parles pas espagnol. Quand je suis montée sur scène, finalement, j'ai eu une envolée comme ça, je sais pas ce qui s'est passé. Je suis dans un contexte où je viens d'arriver, donc je suis pleine d'ambition, je suis pleine de conviction, je suis pleine de plein de choses. Donc j'ai qu'une envie, c'est de le partager aux autres et de leur dire, mais soyez aussi volontaires, parce que si on met tous notre pierre à l'édifice, il y a un moment, c'est obligé que le monde y change. C'est évident, il faut que ça marche. Carlos, il m'a aussi permis d'ouvrir le plus beau projet que j'ai eu, que j'ai actuellement au Pérou, qui est le projet de concession de conservation Yanayaku Makiya, parce que c'est sa grande amie Lotimorei qui le tenait. Et un jour, j'étais dans son bureau et il me regarde et il me dit « Charlène, j'ai un projet pour toi ». Grâce à lui, aujourd'hui, on participe à la conservation de 40 000 hectares de forêt, qui représente quand même 4 fois la taille de Paris. Elle a décidé, il y a 18 ans, de protéger un bout d'Amazonie en venant se réinstaller au Pérou après des années. Elle est amazonienne native et elle a voulu rendre un petit peu de ce qu'elle avait gagné à son Amazonie profonde. J'ai eu une Amazonie très, très, très profonde. Et je fais ce premier voyage, du coup, de repérage avec Loti, où on part là-bas. On découvre des paysages, c'est de la forêt dense. Et puis on découvre aussi l'eau. Finalement, l'Amazonie, c'est beaucoup de l'eau. Mais c'est beaucoup de forêt, mais c'est aussi beaucoup d'eau, donc c'est beaucoup de bateaux. Et avec les bateaux viennent les galères, parce que les bateaux, ils marchent pas toujours. Et avec ça, tu t'enfonces toujours plus et tu réduis complètement ton quotidien à un hamac, un coin de feu, un bout de poisson et l'odeur de l'essence, parce qu'il faut alimenter le moteur du bateau. Et un jour, on va faire un tour comme ça. On s'éloigne un petit peu de la concession parce que l'hôtel aime bien toujours m'emmener dans des petits chemins autour pour aller voir les plus gros arbres, les plus grands, les plus beaux, les plus spectaculaires ou je sais pas quoi, ou des communautés de loutres ou des paillechés qui sont en train de sauter en dehors de l'eau, des trucs toujours un peu plus fous les uns que les autres. Et un jour, on sort comme ça, on va vérifier que les sentiers sont bien faits autour de la concession. Puis on tombe sur un chemin, donc on n'était pas dans la concession, mais on tombe sur un chemin énorme avec que des arbres tombés partout. Donc clairement, c'était des gens qui avaient ouvert ça. Quant à ça, c'est très mauvais signe parce que t'as des braconniers qui arrivent. Et on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Et là, c'est la première fois de ma vie que je tombe sur ça, quoi. Je me dis, mais là, c'est le cœur de l'action. Je veux dire, je suis venue pour sauver la forêt. Si ça, c'est pas le problème, il n'y a pas d'autre problème. Donc on décide de remonter la piste et d'aller voir. On choisit d'aller à droite et à droite, on tombe sur l'arbre le plus gros de la forêt qui était tombé par terre et qu'ils avaient abattu pour faire des bateaux. Et donc, on trouve personne. Et donc, on se décide d'aller à l'autre bout et là, on tombe sur un camp de braconniers. Et heureusement, le camp était vide et il n'y avait que le gardien qui était là du camp. Et en fait, on comprend qu'ils sont venus tuer les animaux autour et que s'ils ont tombé toute cette forêt-là avec juste cet arbre-là, c'est juste parce qu'il leur fallait un bateau supplémentaire pour rapatrier les animaux jusqu'à la ville. Et c'est là où moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et c'est, je pense, peut-être la seule fois de ma mission où vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux, quoi. J'étais touchée à vif. C'était trop dur de voir, genre, un arbre qui avait peut-être 600 ans tomber juste pour un besoin éphémère de monter jusqu'à la ville pendant 3 jours en bateau pour ramener des animaux morts qui devront être mangés plus tard ou braconnés parce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir des petites perruches vertes chez eux, quoi. Et du coup, on a entendu les braconniers de loin qui étaient avec leurs armes à feu. Donc, on a pris la poudre d'escampette, bien évidemment, avec beaucoup de photos. En l'occurrence, on n'était pas dans notre périmètre d'action. Mais au moins, ce jour-là, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire, quoi. De pourquoi l'Amazonie, c'est difficile de la préserver. C'est parce qu'en fait, il y a tellement de ressources partout et tellement de choses à lutter contre ça. Je veux dire, c'est pas les gens qui commercialisent le bois qui vont le tailler dans la forêt. C'est beaucoup plus complexe que ça.
Du coup, tu restes combien de temps au Pérou
Alors au début, je prends le parcours classique. Je signe pour 1 an renouvelable d'1 an. Un VSI en général, c'est 2 ans. Et puis la troisième année, je re-signe. Puis la quatrième aussi. Puis la cinquième aussi. Et puis enfin vient la sixième, j'ai plus le choix. Il faut que je la fasse cette dernière année. Donc je la re-signe. Et finalement, bah, je suis obligée d'arrêter. Quand mon fils est né, ça faisait 4 ans que j'étais au Pérou. Déjà, il est né à l'aube de la pandémie, 2 semaines avant, dans une clinique privée, parce que ce qu'il faut bien souligner, c'est quand on est volontaire en solidarité internationale, on a une très bonne couverture sociale. Donc on a le loisir de choisir ses instituts de santé. Gaston est péruvien et j'en suis extrêmement fière. Il a son passeport et sa carte d'identité péruvienne. Et par contre, il est français aussi parce que avec mon conjoint, on est tous les deux français, donc il a le droit aussi à la nationalité française.
Et donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu continues avec Envol Vert?
Alors aujourd'hui, j'habite dans le centre-ville de Montpellier, donc je suis bien loin des cascades et de ma forêt. Je suis un peu perdue dans cette jungle urbaine. Donc maintenant, j'anime le pôle plaidoyer sensibilisation chez Envol Vert. Donc c'est un pôle qui est voué à faire changer les consciences d'une partie pour le sensibilisation. Et du côté plaidoyer, c'est plutôt faire appliquer ou faire changer les cadres légaux en faveur d'idées qui nous sont chères, on va dire. Donc en l'occurrence, dans notre cas de figure, c'est en faire en sorte que les forêts soient mieux protégées. Et en l'occurrence, en ce moment, au pôle plaidoyer chez Envol Vert, on travaille exclusivement sur le cas Casino, c'est-à-dire qu'on assigne Casino en justice pour non-respect de la loi de devoir de vigilance. Voilà, pour les actions qui mènent en Colombie et au Brésil sur leur filière d'approvisionnement de viande bovine.
Et donc il y a une grande part de ça, j'imagine aussi, c'est construire un argumentaire, construire un discours pour accuser ces entreprises. Comment tu utilises ton expérience au Pérou, ce que tu as vu de tes propres yeux, ce que tu as fait sur le terrain, pour construire un discours maintenant en France?
Alors moi, j'utilise mon expertise terrain principalement dans ma légitimité à discuter avec les autres parties prenantes de cette action justice, puisqu'on est 11 organisations représentées, dont la moitié sont brésiliennes et colombiennes, et sont des peuples originaires, du coup, natifs de ces pays-là. Quand on parle d'interculturalité, on parle d'interculturalité, là on a beaucoup parlé d'interculturalité au Pérou en général, mais au Pérou il y a beaucoup de types de populations différentes. On travaille aussi, nous par exemple, avec des Achaninka, qui sont des communautés natives, et en l'occurrence l'interculturalité avec eux, elle est très très différente des Péruviens, par exemple de Lima. Et ça, sans expérience, c'est très 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 difficile à gérer. Donc en l'occurrence, mon expérience au Pérou, elle m'a beaucoup apporté sur la relation que je peux avoir avec des communautés natives, le discours, les méthodes de coordination avec eux, et aussi évidemment sur mon expertise terrain, parce que je connais les leviers de déforestation, je sais comment ça fonctionne, par quel biais ça passe, et comment, à quel point ça peut être insidieux surtout. Je pense que ce qui est important, c'est surtout que les jeunes s'engagent, encore une fois. Je pense que ce qui est important, c'est que tout le monde participe et se dire, c'est pas ma voix, elle compte pas. C'est vraiment important d'arrêter de se dire ça. Si on portait tous notre voix, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les urnes, que ce soit auprès de nos collègues ou autre chose, bah, ça ferait quelque chose, je pense.
Bah, merci beaucoup, Charlène.
Vous venez d'écouter Fracas. Cette mini-série est signée Antonella Francini. Le montage est de Mélodie Watté. La réalisation et le mix de Charles de Cilia. À très vite.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.